d'organes. Trop délicat pour être nourri directement par le sang. C'est la raison pour laquelle le sang de la mère est transformé en lait et il se nourrit du lait qui est du sang transformé. C'est clair celui-là? Non. Et le temps de l'allaitement, c'est l'achèvement de la grossesse, mais elle est extraite. Ça c'est Yomi Gamal, c'est-à-dire le temps du sevrage. Je vous donne une petite parenthèse puisqu'on a deux minutes. Vous connaissez l'expression de la Bible « Eret Zabat Chalavut Vache ». Comment vous traduisez « Eret Zabat Chalavut Vache » Qui peut traduire ?«
Ruisselante ».
Ruisselante, c'est pas cool, c'est qui ruisselle.
Ça, c'est de lait.
Et de
miel.
Et alors, le Talmud a posé le principe suivant. Le pur sort du pur et l'impur sort de l'impur. Et voilà que, ici, avec le lait et le miel, on a deux exemples qui semblent s'opposer à ce principe. Le lait, qui est très pur, vient du sang, qui est le comble de l'impureté. Et le miel, qui est très pur, vient des abeilles, des insectes, il n'y a rien de plus impur. Quoique, sur ce verset, il n'est pas évident dans le tchat que le dvash est les abeilles. Ça peut être le miel des abeilles. Ça peut être le miel du rocher, mais ça revient au même. C'est un miel de guêpe, pas d'abeille, mais c'est un miel d'insecte. Certains disent que c'est du miel de date. Mais le midrash que je vous cite se base sur la lecture de vache, c'est le vache de Dvorim, des abeilles. Et alors, le Talmud explique la skoula. Comment on traduisait skoula? Le privilège des restes d'Israël. Qui transforme l'impur en pur. Eret, c'est une terre qui distille le lait et le miel, c'est-à-dire ce qu'il y a de pur qui vient de l'impur. Je vais vous dire une chose énorme, elle prend des juifs, elle en fait des hébreux. Elle transforme l'impur en pur. C'est pas que les juifs sont impurs, mais ils sont pleins d'impureté. Quand ils arrivent de l'extérieur, il faut les cachériser à l'eau et au sel. C'est clair celui-là. Et il y a un verset pour ça. Vous allez reconnaître ceux qui connaissent les versets. Vechipe admato amo. Et sa terre purifie son peuple. Vous avez remarqué une chose, que tous les enfants des juifs qui viennent s'installer dans le pays changent d'allure. Ils arrivent petits, rabougris, et on les trouve grands, redressés d'un coup. Vous avez remarqué ça?
Physiquement,
on est différent
des jeunes.
Oui. Et c'est les jeunes d'Israël qui sont différents de leurs parents. Et de leurs grands-parents encore plus. Et c'est très frappant. Ça frappe d'ailleurs les sociologues, les anthropologues, tout ce que vous voulez. Ça peut s'expliquer par énormément de facteurs. Mais il se passe comme si l'identité hébraïque, qui avait été comprimée pendant 2000 ans, subitement, en retrouvant son terroir, explose. Et c'est ce qui arrive dans les générations de savoir. Du coup, avant de faire le kiddush, on dit « Sabré Marana ». Qu'est-ce que ça veut dire « Sabré Marana » Qu'est-ce que ça veut dire « Sabré Marana » Oui, c'est de l'araméen. « Sabré », ça veut dire « Avec votre permission, Marana, mes maîtres ». Qui connaît l'arabe? Qu'est-ce que ça veut dire « Svor » en arabe? Ah, vous n'avez pas l'arabe. Donc, en araméen, « Sévère », ça veut dire prendre la permission de quelqu'un. Mais, bon, quand vous apprendrez l'araméen, vous vous rappellerez de l'arabe. Alors, pourquoi je vais parler de ça? Bon, ça n'a rien à voir, le sevrage et le savrage. Et à propos du lait et du miel, ça y est, c'est clair? Alors, Vatéré, verset 9. Vatéré, Sarah, et Sarah vit. Et Ben Agar Mitzri, le fils de Agar l'Égyptienne. Vous voyez comment il est appelé? Il n'est pas appelé le fils d'Abraham. Il est appelé le fils de Agar l'Égyptienne, Asher Yaldal et Abraham, qu'elle avait enfanté à Abraham. Metzachri, riant. Tout de suite, on est averti. La définition d'Ishmaël, c'est qu'il est Metzachri. Il rit au présent. Alors, comment s'appelle Yitzhak? Yitzhak, celui qui rira au futur. Et c'est cette différence-là que le Midrash va nous expliquer. qu'est-ce que Sarah a vu dans cette différence du rire? Va tomber l'Abraham et elle dit à Abraham, Gavé Shahamazo, expulse cette servante, Vet Bena, et son fils, Kiloirach, car méritera pas Bena Amazo, le fils de cette servante, Imbeni Imitsrak, avec mon fils, avec Isaac. Alors vous voyez, si on rapproche ces deux mots, qui sont à la fin des deux versets, Metzachek et Yitzhak, on comprendra pourquoi Ishmael et Isaac sont incompatibles. L'un rit au présent, l'autre rit au futur. C'est ça qu'on va étudier maintenant dans la deuxième partie du cours. Réfléchissez d'abord, essayez de comprendre par vous-même quelle différence ça peut faire, rire au présent et rire au futur. Pour comprendre ça, demandez-vous qu'est-ce que ça veut dire rire, Bichlav. Qu'est-ce que ça veut dire que le fils d'Abraham rit, est capable de rire, et qu'est-ce que ça veut dire que l'un rit au présent et l'autre rit au futur. Alors on voit ça tout à l'heure. De cette conduite à la racine de notre histoire ont été terriblement catastrophiques. Si vous me rappelez ça, demandez au Rav Levick que je vous lise la prochaine fois ce que le Zohar dit à ce sujet. Je dois avoir le texte sous les yeux. Puisque, à cause d'un moment de faiblesse, toute une histoire apparaît là, qui est celle de Ishmaël, fils d'Abraham, de l'approximation d'identité d'Isaac, qui s'érige en rivalité, et puis, indépendamment du drame qui s'est passé dans la famille d'Abraham, c'est la préfiguration d'une situation historique dont nous payons encore les conséquences, et de manière très lourde. Mais ça a duré des siècles, ça a duré des millénaires. Enfin, ça dure depuis le temps des patriarches. Du point de vue de l'histoire officielle de l'islam, c'est 14 siècles depuis Mahomet. Mais la rivalité entre les tribus d'Ishmaël et Israël existe depuis le temps des patriarches.
Mais Abraham n'a pas été sanctionné pour
d'avoir
engendré Ishmaël. Et
autre part,
ça
ressemble à... Attends, il y a une question là. Qu'est-ce que tu veux dire, Abraham n'a pas été sanctionné?
Ou alors, quelle a été sa sanction pour avoir été sanctionné?
Mais sa sanction, c'est sa descendance qui l'appelle. De toute façon, je pense que vous avez déjà compris, on procède très lentement. Mais Abraham n'est pas encore Israël. Israël n'apparaît qu'avec Jacob. Par conséquent, a posteriori de Jacob, Abraham est rattaché à Israël. Mais lorsque nous lisons l'histoire dans son ordre chronologique, on ne sait pas encore ce qui va sortir d'Abraham. S'il n'était pas sorti Isaac, eh bien, Abraham, ce serait Ibrahim, père d'Ishmaël. Ça n'a rien à voir avec Abraham, père d'Isaac. Habituez-vous à ça. Vous lisez l'histoire a posteriori de la manière dont elle s'est développée. Alors, il y a différentes étapes. Et dans l'histoire d'Abraham elle-même, il y a toute une série de péripéties que la Torah nous raconte. Et Abraham du début de l'histoire, ce n'est pas le même qu'Abraham de la fin de l'histoire. On va apprendre tout à l'heure, si j'ai suffisamment de temps aujourd'hui, que Ishmaël va finir par se repentir. Il va finir par se réconcilier avec Isaac. On n'en est pas là encore dans l'histoire des événements. Mais Abraham a payé très cher cette rivalité entre Ishmaël qui l'a fait naître avant Isaac. Alors que Dieu s'adresse à lui pour lui dire « Tu auras un fils de Sarah », il ne voit pas ce fils venir, il prend Agar. Et Abraham devient, avec Ishmaël, l'islam. Et la manière dont le monde de l'islam, qui est un monde gigantesque, se réclame d'Abraham contre Israël, n'a aucune idée. Moi, il m'arrive d'être mêlé à des colloques avec des théologiens musulmans. En général, pas des Arabes, les Arabes ne veulent pas nous parler, mais d'autres musulmans, des Pakistanais, des Indonésiens, etc. ou surtout des Perses, mais vous n'avez aucune idée de la manière totale et entière avec laquelle il s'approprie Abraham contre Israël. Vous n'avez aucune idée de ça. Hein? Alors c'est ça, c'est Abraham qui l'a fait. D'où ça vient? Ça vient de sa vertu à lui. Mais Abraham n'est pas encore Israël. On a encore toute l'année pour vous habituer à ça. Israël n'apparaît qu'avec Jacob. Et alors, c'est a posteriori de Jacob qu'Isaac est d'Israël et qu'Abraham est d'Israël. si Jacob n'était pas Israël, Isaac peut être le père d'Ésaü, Abraham peut être le père d'Ismaël. Ce sont des personnages possibles, mais qui a posteriori n'ont rien à voir avec le personnage d'Abraham et Isaac, ancêtre d'Israël. Ce sont des approximations d'identité qui se sont instaurées en rivalité contre Israël. Quand vous avez, il m'arrive d'assister en France à des colloques des trois religions. Et alors, les chrétiens eux-mêmes n'arrivent pas à garder leur sang-froid de la manière dont les musulmans, surtout, vous savez, ces jeunes muftis qui arrivent d'Afrique du Nord, ou d'ailleurs d'Égypte, ou d'Arabie Saoudite, et qui dirigent des mosquées intégristes. En France, je me souviens d'un colloque qu'on avait eu à Toulouse il y a quelques années, mais avec une espèce de tranquillité qui vous disent, et un accent derrière les fagots, qui vous disent, mais vous cherchez un dialogue judéo-chrétien, mais le dialogue judéo-chrétien c'est l'islam, nous avons intégré le judaïsme et le judaïsme, et le christianisme, tout ça c'est nous. Et alors les Français qui assistent à une invasion impérialiste de l'islam militant, et ils sont là encore stupéfaits et très fiers quand on les invite à manger un couscous au maghreb. Je ne sais pas si vous remarquez ça chez les Français. Mais ils se réveilleront et ils verront qu'après Poitiers, il y a l'autre moitié. Vous verrez dans les bénédictions d'Ismaël, Ismaël est un conquérant de l'univers. Et Ismaël est en train d'acheter l'univers entier. Avec l'argent du pétrole. Vous voulez, si vous avez besoin du pétrole, vous suivez un arabe, là où il s'arrête, vous creusez, il y a un puits. Ça, c'est des bénédictions qu'il a reçues d'Abraham. C'est écrit dans les versets. Alors, faites attention. Se conduire comme Abraham vis-à-vis d'Ismaël, c'est une faute. Voilà, la Torah nous raconte comment Abraham se conduit vis-à-vis d'Ismaël et que ça a été une catastrophe. Et alors, j'ai vu, quand Israël se conduit comme Abraham vis-à-vis d'Ismaël, il a mis le caractère. Et d'ailleurs, dans la scène que nous sommes en train de lire, quand Sarah demande à Abraham de renvoyer Agar et Ismaël, le verset qui suit, vous avez dû le lire, j'espère. Abraham n'était pas content. Alors Dieu dit à Abraham, écoute Sarah, écoute ce qu'elle te dit. Parce que ta descendance c'est Isaac, c'est pas Ishmael. Il faut donner une leçon à Abraham que sa descendance c'est Isaac, c'est pas Ishmael. Lisez bien le texte comme il est écrit. Alors que vous avez des juifs qui disent Ishmael, mais c'est un fils d'Abraham, renvoyez-les à ce texte. Et vous allez lire le verset avec moi. J'ai vu. Du calme. J'ai attendu 2000 ans, tu peux attendre 5 minutes. Okay. Alors, prenez le verset 12 du chapitre. Vous êtes impatient. Ouais. Vous savez que c'est le défaut des bébés, le biberon, tout de suite. Un peu de patience. Alors, prenez le verset 12. Vayomer Elohim et Abraham. Alors, prenez déjà au verset 11. Vayera Adabar Meod Veine Abraham. Et la chose fut très mauvaise aux yeux d'Abraham. Quoi ? Quand Sarah a dit, transfert. Vous avez vu que c'est dans le texte, hein? Abraham et Shalom Asha, et Sarah les molédés. Alors qu'est-ce que Dieu dit à Abraham, quand Abraham, ça ne lui a pas fait plaisir, la décision de la Knesset de renvoyer le Hamas. Verset 12, Vayomer Elohim et Abraham, et Dieu dit à Abraham, suivez sur tête, Alira ben Echa, que ça ne soit pas mauvais à tes yeux, Al-Nahar vers la Matecha, à cause de l'enfant et de ta servante, Kolacher, Tomar et Lecha, Sarah, tout ce que Sarah te dira, Shemar Bekola, écoute sa voix, qui béitra, Ikare Lecha, Sarah. C'est en Isaac que ta postérité sera comptée. Alors, voyez qu'Abraham a un doute. C'est qui, mon fils? C'est Ishmaël ou c'est Isaac? Il faut que Dieu se révèle à Abraham pour lui dire c'est Sarah qui a raison. Vous avez suivi, hein? Que c'est le pshat du texte. Hein. Et alors, il y a en Israël des tendances à Abraham, et ça mène à un Shalom Marcha, le biberon, hein, la paix, maintenant. Okay. Et puis, quel que soit le prix. Et puis, il y a la tendance Sarah, c'est garer cet amas avec Bénin. Vous voyez qu'il ne faut pas chercher ailleurs que dans la Torah elle-même comment se conduire dans les problèmes de l'identité d'Israël. C'est clair, je pense. Et alors, le Talmud, d'ailleurs, sur ce verset, qui est le verset 12, va enseigner que la prophétie des femmes est plus forte que la prophétie des hommes. Pourquoi ? Parce que le verset dit « Écoute sa voix à elle ». Je crois que je vous ai parlé de ça. C'est à vous ?
Non.
Non, je vous ai expliqué. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une sage-femme ? La sage-femme, c'est celle qui aide la mère à enfanter. Alors nous avons une Mishnah dans les Pirkei Avot qui dit « Ezehu Chacham, Aroé et Anolad ». La Mishnah dit « De qui on peut dire qu'il est Chacham, qu'il est sage ?» C'est celui qui prévoit les conséquences. Aroé et Anolad. Mais le pshat, ça veut dire celui qui voit ce qui est en train de naître. Or, c'est la sage-femme qui voit l'enfant en train de naître. Ça veut dire c'est la mère qui sait par lequel des enfants passent l'alliance entre Dieu et la créature. Et c'est toujours les mères qui interviennent. C'est Sarah qui intervient pour indiquer que l'alliance passera par Isaac et par Ishmaël. C'est Rivka qui intervient pour indiquer que l'alliance passera par Jacob et par Ésaü. C'est-à-dire l'histoire des toladot, des engendrements, c'est la mère qui sait comment cela doit se développer. Alors c'est pourquoi la chokhma, la sagesse du prophète femme était supérieure à la sagesse du prophète homme, parce que seule la mère comprend l'enfant qu'elle a fait. Le père, lui, il est aveugle. Il ne voit pas. Hein? Pour Abraham, quelle différence il y a entre Ismaël et Isaac à ce niveau-là? Un, il mange le falafel comme ça, et l'autre, il mange le falafel comme ça. Quelle différence? Un, il est barbu comme ça, l'autre, il est barbu comme ça. Vous voyez une différence? Demandez à un Esquimau de choisir entre Khomeini et n'importe quel barbu de chez lui. Hein? Vous voyez la différence? Il n'y a que Sarah qui comprend. Ce n'est pas les mêmes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Ça vous est jamais arrivé d'être frappé par ça. Et c'est d'ailleurs pour la... Bon, je ne vais pas trop élargir, ça va me prendre du temps. Mais vous allez noter deux expressions. Dans la prière, on dit « Rahem, Rahamenu, Rahem Alenu, Ke Rahem Av Albanim ». Ça veut dire « Et miséricorde sur nous, comme le Père a miséricorde de son Fils ». On s'attendait à ce que ce soit la mère. En réalité, la mère est terrible. La miséricorde, c'est le Père. La mère est Menachemet. C'est la consolation. Le Père, c'est la... Vous avez compris ce qui se passe, okay? Alors, ne cherchez pas des analogies dans les familles privées, okay? Mais en général, le sens de la justice de la mère est plus grand que chez le Père. Le père, lui, est occupé des affaires extérieures, il ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la maison. Maintenant, il faut se méfier des pères qui se prennent pour des mères, parce que là, il faut les envoyer à la mairie, et il faut se méfier des mères qui se prennent pour des pères. Mais ça existe, des pères vraiment pères et des mères vraiment mères. Bon, c'est rare, mais ça existe. Alors, même ça s'apprend. Alors, voilà donc quel est le problème à propos de ta question. Nous sommes là en présence d'une catastrophe. Il y a un échec, il y a une approximation, il y a un ratage. Et qui a mis dans l'histoire une rivalité d'Israël inexpiable. Si on entend cela, on va voir comment la Torah prévoit que Ishmaël fera tchouva, mais encore une fois, on n'en est pas là. Bon. Est-ce qu'il y avait une autre question encore ? Prenez.
Ce que je comprends, c'est que Abraham, c'est un prophète, Sarah, c'est une prophétesse, très grand. Comment se fait-il qu'il
n'ait
pas vu que l'erreur dans le futur d'Ishmaël?
Voilà.
Qui lui proposé de
très bien. Au fond, tu poses la même question. À peu près. Et il faut vous la poser 100 fois. Jusqu'à découvrir cela. La Torah nous raconte l'histoire réelle telle qu'elle se passe. Et si tu as suivi les premiers cours de l'histoire d'Abraham, tu te rappelles comment Abraham est dans un itinéraire qui doit faire de lui l'Abraham réussi. Il va traverser 10 épreuves, nous raconte la Torah. Et à chacune de ces épreuves, il est un peu plus Abraham. Ce n'est pas d'emblée qu'il est le juste parfait. Il commence par être un hébreu de l'exil de Babel, vous répétez ça 1000 fois, vous arrivez à le rentrer dans le crâne. Ne croyez pas qu'Abraham, sorti d'Ur-Kasdim, c'est un Abraham angélique. C'est un juge de l'exil. Laisse-moi parler. Et essayez de comprendre qu'il y a un processus d'identité qui se dévoile. Ta question, je vais essayer de la schématiser, tu poses une question d'un Abraham à l'achèvement de son identité sur l'âge d'Abraham au début. C'est ça que tu poses. Tu dis, mais Abraham c'est un prophète. C'est ça que tu as dit.
Mais il était prophète à un moment où,
mais bien
où Sarah lui dit de...
Mais voilà que Sarah est plus prophète que lui. Eh bien c'est ça, il faut que tu découvres ça. Il faut que tu découvres qu'il y a tout un processus de... Je veux dire, tu t'es jamais demandé pourquoi la vie humaine dure à travers la durée. Pourquoi on commence d'abord par être enfant, ensuite adulte, ensuite à l'âge mûr. Le processus de la durée, ça m'a frappé. Pourquoi on n'est pas d'emblée à l'âge adulte, hein? Pourquoi il faut tout ce processus-là d'acquisition d'une identité? Alors qu'on sait très bien que profondément on est le même à tous les âges, mais à chaque âge on est différent. Il faut acquérir son identité d'être à travers une existence qui a différentes étapes. Pourquoi la Torah nous raconte tout cet itinéraire, tout ce processus? Alors je te reprends ce que je te dis. Méfiez-vous de ça, des idées abstraites toutes faites, carrées. Okay? Il y a une dynamique de l'histoire des engendrements que la Torah nous raconte. Par exemple, Jacob naît Jacob. Et on nous raconte l'histoire de Jacob. Et il faut que Jacob fasse effort sur lui pour mériter le nom d'Israël. Et on a posé la question de la manière suivante. Pourquoi les promesses qui ont été faites par Dieu à Israël ne s'accomplissent pas? La réponse est très simple. Parce que Israël est d'abord Jacob. À Jacob, on a donné des promesses qui se réaliseront quand il sera Israël. Dès que Jacob est Israël, il se réalise. Mais il faut que Jacob devienne Israël. Et on verra d'ailleurs, si on a le temps encore cette année, Jacob va hésiter entre deux formes de messianité, celle de Joseph ou celle de Judas. Et cette hésitation aussi nous a coûté très cher. Finalement, ça nous mène à l'impasse du christianisme. Vous n'avez pas remarqué que le Messie des chrétiens a un père qui s'appelle Joseph? Ça ne vous a pas frappé, ça? Et un adversaire qui s'appelle Judas, comme par hasard. Hein? Dans leur mythe, ils ont repris ce thème-là en clair. Hein? Et ce n'est que de notre temps qu'ils commencent à s'apercevoir que c'est peut-être les Juifs, Judas, le judaïsme, qui sont Israël. Mais jusqu'à présent, ils croyaient que c'était le fils de Joseph, c'était le Messie d'Israël. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Et Joseph, c'est l'identité de Jacob en exil. Judas, c'est l'identité de Jacob en Israël. Et vous voyez, ce conflit entre deux manières d'être Israël, il faut le comprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans l'identité d'Israël qui pose ce conflit entre le niveau Jacob et le niveau Israël? Tout ça, il faut le découvrir. Seulement, vous lisez les textes de la Bible, comme vous ne les avez jamais lus, d'ailleurs vous ne les avez jamais lus, et comme si on lit un catéchisme. On ne lit pas un catéchisme, on lit la Torah. Ça s'étudie, ça se comprend et ça se vit. Ce n'est pas des piniclés. Hein? Et alors, comprenez bien cela, je réponds à ta question. Et quand, je ne sais pas si tu te rappelles, si vous rappeliez tout ce que vous apprenez chaque fois, vous n'auriez pas posé vos questions. Quand je vous ai dit souvent, 7 fois, Dieu promet à Abraham une fécondité. Et Abraham n'arrive pas à entendre jusqu'à ce qu'en fin de compte, il entend, et qu'est-ce que dit le verset? On a fait un texte de Talmud là-dessus. Qu'est-ce que dit le verset? Jusqu'à ce que le verset dit, Vehemin Bashem. Vous ne vous rappelez pas de ça? La discussion entre Rashi et Narmani. Bien. Et jusque-là, il n'a pas cru. Ça lui était difficile d'arriver à entendre ce que Dieu lui disait. Et c'est pourquoi la Torah nous répète. Et Dieu dit à Abraham, tu auras un fils. Et puis encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, jusqu'à ce que Abraham s'est suffisamment amélioré pour se dire, tiens, c'est peut-être possible. Jusque-là, il se connaissait comme ne pouvant plus avoir de fécondité. Vous vous rappelez de ça? Par exemple, je veux dire, l'exemple le plus simple que je peux vous donner, c'est votre propre expérience. Vous avez passé par différentes expériences, vous avez découvert que vous êtes d'Israël. Et pourquoi vous ne l'avez pas découvert avant? Vous étiez les mêmes. Tu vois ta question? C'est parallèle. Mais c'est clair. Et tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir d'une amélioration. Il faut se méfier, surtout à votre âge, des idées arrêtées. C'est très ridicule des jeunes gens qui ont des convictions arrêtées. Et le reste de la vie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On se sclérose, l'esprit se fige. On devient vieux sans se rendre compte. Vous avez énormément de jeunes gens qui ont des apparences de vieillards. Pourquoi? Parce que dans leur monde intérieur, tout est déjà bouclé. Et puis c'est ridicule en plus. Je me rappelle, j'avais un professeur de lettres qui me disait, quand un adolescent fait des vers parce qu'il a 17 ans, c'est qu'il a 17 ans. S'il fait des vers à 70 ans, c'est que peut-être il est poète. Et bien c'est la même chose pour l'expérience spirituelle. Quand un adolescent est mystique à 17 ans, c'est qu'il a 17 ans. S'il est mystique à 70 ans, ça commence à devenir sérieux. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Okay. Mais aucune idée à quel point c'est ridicule, enfin c'est pire que ridicule, c'est indécent, des jeunes gens qui jouent à la piété des vieillards. Alors vous les voyez prier comme ça, de qui on se moque, okay. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Okay. Je vais vous raconter une histoire. Et, je remarquais au mieux ça que de s'agiter dans une discothèque. Et encore, c'est pas évident. Un jour, Roger, si vous voulez, elle avait l'habitude de prier toujours devant le mur. Un jour, Amintra est arrivé en retard dans ses yeshivas. Il rentre dans la synagogue. Ils sont en train de commencer la Amida. Il a dû s'arrêter à la porte pour attendre que les élèves aient fini de prier. Et ils avaient prié, gesticulé. Alors à la fin de la prière, elle a dit, qu'est-ce que vous faites? Alors ils ont répondu, mais on fait comme toi. Il dit, oui, mais moi je sais ce que je fais. Je ne sais pas si vous avez compris la différence. Alors ils ont vu leur maître s'agripper à sa prière, ils ont fait la même chose. Des singes. Okay. Et puis il faut avoir un certain âge pour que ça ait un sens, la mystique. Je ne sais pas si c'est clair celui-là. Ça vous étonne. Mais méfiez-vous. Et l'excitation de l'adolescence, c'est une autre histoire. Ça se fait prendre pour de la piété, mais c'est marché au acher les gamins. C'est clair ce que je dis là? Alors, mélangez pas, c'est pas joli. Bon, je reviens au sujet. Alors, dans tous les cas, comprenez bien cela, la dynamique de la... Je vais donner deux termes. On doit acquérir son être. Mais tant qu'on n'a pas acquis son être, on n'est pas encore. On existe. On est en train d'être. Alors, Abraham est en train de devenir Abraham jusqu'à ce qu'il réussisse. Alors, pour finir la réponse à la question, il n'y a qu'Abraham qui peut être Abraham, mais il faut qu'il le devienne aussi. C'est clair? Quand Dieu s'adresse à Abraham, pour lui dire « tu seras Abraham », eh bien, il faut qu'il le fasse. Alors, ta question, ce serait, mais est-ce que Abraham ne comprend pas ce qu'Abraham doit comprendre? Voilà, tiens ta réponse.
C'est la prophétie.
Mais bien sûr. Je veux dire, il y a des niveaux en tout. Okay. Il y a des niveaux, même dans la prophétie. Et au fait du prophète, il y a Moïse. Okay. Mais ça, c'est le plus haut. Et puis, il y a Isaïe, il y a Jérémie, Ézéchiel, qui est le même niveau. Et puis, il y a les autres. Et puis, il y a tous les degrés. Okay. Si on croit, j'ai toujours vous citer ce texte du Talmud. Le Talmud peut dire tranquillement, nous avons eu des dizaines de prophètes. Et nous avons eu des dizaines de prophétesses. Et les prophétesses sont plus grandes que les prophètes. Pourquoi? Parce que le prophète, c'est celui qui peut expliquer l'avenir. Mais qu'est-ce qui fabrique l'avenir? C'est la sage-femme. C'est clair celui-là? Réfléchissez bien à ça. Vous voyez que pour comprendre ces choses-là, il faut les penser en hébreu. Alors quand vous les penserez en hébreu, vous verrez. Et puis surtout, vous savez que chaque année, on reprend tous ces textes, on les lit à la Torah, c'est pas pour rien. Et chaque année, on les comprend un peu mieux. Ce qui est arrivé aux Juifs, c'est qu'ils ont beau lire chaque année pendant 2000 ans, et ils n'y comprennent rien. Et quand ça leur arrive, ils ne comprennent même pas ce qu'il y a dans le journal. Qu'est-ce que tu veux dire?
Parler des relations entre hommes et femmes, le fait que Ish et Isha soient des mots des relations entre hommes et femmes. Isha, c'est le féminin de Ish. Mais en fait, c'est un pluriel de féminin de
femme. Non, c'est un féminin. C'est pas un pluriel, c'est un féminin. Et je comprends ta question. Mais prends-la déjà au niveau Adam, Adama. Okay. Alors la Torah nous dit que Adam est appelé Adam parce qu'il a été pris de la Adama. Ken, ça marche pas. Adama, c'est le féminin de Adam. C'est Adama qui est construit sur Adam. Ça veut dire donc qu'il y a un principe de Adama, qui est la mère du Adam, mais que cet Adama a un masculin qui s'appelle Adam, qui est beaucoup plus haut. Voilà. Et tout ça, je profite de ta question pour te poser le problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en hébreu, c'est la même racine, Ish et Isha. En français, il faut deux radicaux différents pour dire un homme et une femme. En hébreu, Ish, c'est le masculin, Isha, c'est le féminin. D'ailleurs, le Midrash explique que dans l'un, il y a le Yud, dans l'autre, il y a le He, du nom de Dieu lui-même. Alors, cette relation d'intimité entre Ish et Isha, qui est autre chose que la guerre des sexes, Zahar Nekeva, Adam Arishon l'a réussi. Mais il s'est arrêté là. Adam Arishon ne sait pas dire de Chava qu'elle est sa sœur. Ça, c'est Abraham qui commence. Et il faut trois étapes. Que lui dise d'elle, qu'elle dise de lui, que les deux le disent. Alors quand les deux le disent, il va y avoir une réussite. Alors vous allez prendre ce verset comme ça, ça sera bon. Mais avant d'arriver là, je vais t'expliquer ça. Ce sont des thèmes de la sagesse générale qui ont mis des siècles de culture humaine à devenir évidents. La Torah nous raconte les commencements de ces révélations-là. Mais on n'a pas étudié la littérature grecque, d'ailleurs, on n'avait pas le temps, on n'avait pas de temps à perdre. Mais il y a un thème dans la littérature grecque qui est passé à la littérature française. À partir d'un certain âge, un couple réussi, le mari et sa femme commencent à se ressembler comme frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Si vous avez connu vos grands-parents, vos oncles, vos grands-oncles, vos grands-parents, c'est très frappant. À partir d'un certain âge, un couple réussi, le frère, le mari et la femme se ressemblent comme frères et sœurs. Dans la littérature, c'est Philémon et Baucis. Je ne sais pas si vous avez vu ces choses-là. N'a pas lu La Fontaine, c'est pas grave. Alors, est-ce que vous savez très bien que vous êtes d'une ignorance encyclopédique. En tout cas, pour le niveau. Je suggère que vous allez prendre dans le troisième épisode de Rebecca et Isaac, je vais vous donner le chapitre 26. Prenez quatre pages. La scène se passe chez Abimelech. Et vous prenez le verset 8. Vous prenez le verset 8. Alors, lorsque Isaac et Rivka se trouvent chez Abimelech, la même chose, Isaac dit de Rivka, tu diras que tu es ma sœur, je suis ton frère. Et Abimelech va prendre Rivka. Et puis, voilà que Abimelech s'aperçoit que Isaac rit avec Rivka. Alors regardez le verset 8. Vaï, vous y êtes ? Vaï, qui a Rihulo Shamayamim. Et il arriva lorsque les jours se sont allongés pour lui, chez Abimelech, là-bas. Il a passé beaucoup de temps. Vaïashkef Abimelech, Meder Pelishtim. Et Abimelech, le roi des Philistins, vit, Vaïashkef, ça veut dire regarder à travers la fenêtre, Mashko. Vaïad Ahalon, à travers la fenêtre. Vayar et lui, Veine, voici, Utsrak Metzachet et Rivka Ishto. Isaac riant avec Rivka, sa femme. Regardez ce qui se passe dans ce verset. Il y a un moment où Isaac peut rire au présent. Utsrak Metzachet. C'est un autre problème avec Ishmael, hein, qu'on va étudier maintenant. Parce que lorsque Isaac et Rivka peuvent se dire, et ça réussit, le mari et la femme sont frères et sœurs, alors Isaac a le droit de rire. C'est un moment de fin des temps dans son histoire. Oui, il s'appelle Yitzhak. Il n'a le droit de rire qu'au futur, mais quand ça réussit avec sa femme, alors il rit et il a le droit. Alors toutes ces choses-là, ça ne vous frappe pas, si vous lisez en français, bien sûr. Mais en hébreu, c'est clair. Vaï Yitzhak Metzach. Alors on revient au texte. Quelle heure est, que je sache combien de temps. Alors, on a trois quarts d'heure, Ken. Alors, reprenez le texte. Verset, chapitre 21, verset. Il y a fait 10, hein? Oui. Alors, vous allez prendre dans la page qu'on vous a photocopiée ce que dit le Midrash sous le nom de Metzachek. Quelqu'un me donne une page que je vous montre où c'est. Alors, vous l'avez là, hein? Ici. Sur Metzachek. Alors vous allez suivre avec moi. Qu'est-ce que dit le verset ? Que Sarah a vu que le fils de Hagar l'égyptienne était en train de rire, qu'il riait au présent. C'est là qu'elle va intervenir pour dire ses paroles. Alors, Messaret, Tania, suivez sur texte. Tania, on enseigne. Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai a dit, a enseigné. Darash Rabbi Akiva, la cité, son maître Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a expliqué, Ensrog à Amurkan et la Avrazara. Le rire qu'il y a ici, c'est l'idolâtrie. On va suivre la suite du texte, ça va se développer encore. Et tout de suite, il faut s'étonner. Qu'est-ce que ça veut dire que Sarah, dans le rire d'un enfant, a vu l'idolâtrie ? Et on pourrait objecter, c'est un enfant qui rit. On verra par la suite, il se moquait d'Isaac. Hein ? C'était la fête d'Isaac, mais Ishmaël était déjà âgé, et il se moquait d'Isaac, d'une moquerie qu'on a entendue à travers les siècles et les millénaires. Isaac croit qu'il est le fils d'Ishmaël, c'est moi le fils d'Ishmaël. D'Abraham, c'est moi Ishmaël, le fils d'Abraham. C'est ce rire-là. Et alors, pourquoi ici les rabbins vont donner un sourire de dimension énorme ? On verra, ça va aller encore plus loin. Rabbi Akiva dit dans ce rire-là, il y a l'idolâtrie. Et c'est un verset. Il y a un verset, effectivement, où l'idolâtrie s'accompagne de rire. Rabbi Eliezer dit Ze gilu arayot. Rabbi Eliezer dit ça, c'est la débauche. Et on cite un verset, Ba'elai ha'ivri et sarekbi, où le rire accompagne la débauche. Rabbi Yoshua dit Ze shfichut damim. Ça, c'est le meurtre. Et on cite un verset, Yakumuna ne'ari ne saratu, Yahalbo vesareyehu, où le rire accompagne le meurtre. Ça veut dire les trois fautes les plus graves, selon la Torah, je vais vous donner le principe, et on s'aperçoit que le rituel de ces fautes s'accompagne de rire. Un rire démentiel qui accompagne le débordement des instincts, que ce soit dans l'idolâtrie, dans la débauche ou dans le meurtre. Alors ça se rattache à une définition que le Talmud donne des trois grandes catégories de mitzvot de la Torah. Dans la Torah, il y a trois catégories de mitzvot. Les mitzvot entre l'homme et Dieu. Ben Adam Lamakom. Et la faute dans cet ordre-là, c'est l'idolâtrie. Les mitzvot entre l'homme et son prochain, la faute dans cet ordre-là, c'est le meurtre. Et les mitzvot entre l'homme et lui-même, la faute, c'est la débauche. Ça veut dire que, selon l'enseignement des maîtres de Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui rit au présent est dans le cas des fautes que la Torah indique. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que ça veut dire rire au présent ? Ça veut dire se satisfaire du monde tel qu'il est. Celui qui se satisfait du monde tel qu'il est, ça veut dire qu'il accepte les coordonnées de la réalité telles qu'elles sont, il est rachat. Et le monde, ce monde-ci, est un mélange de bien et mal. Et alors, la Gemara enseigne que tant que le monde est ce qu'il est, on n'a pas le droit de rire et que cela. Il faut réprimer le rire. On n'aura le droit de rire que lorsque le monde aura trouvé sa rédemption. Et celui qui rit tant que le monde est ce qu'il est, c'est le signe que c'est un rachat. Voilà quel est le thème de cet enseignement. Et effectivement, qui peut se satisfaire de l'état du monde et être satisfait sinon un rachat? Un tzaddik ne peut pas être satisfait de l'état du monde. C'est-à-dire le signe par lequel Sarah va intervenir pour séparer Ishmael et Isaac est dans le rire. Le rire est possible pour le fils d'Abraham parce qu'Abraham a révélé que le monde a un créateur. Puisque le monde a un créateur, ça signifie que le monde a un sens, donc la joie est possible. Mais celui qui rit au présent, ça signifie qu'il se satisfait du monde comme il est. Et c'est la sensibilité religieuse d'Ishmaël que je vais vous décrire maintenant. Ishmaël, comme fils d'Abraham, sait et reconnaît que le monde a un créateur. Mais c'est le monde tel qu'il est qu'il impute au créateur, avec son bien et son mal. C'est pourquoi il y a dans la religiosité de l'islam une sorte de fatalisme qui schématise beaucoup à ces différentes écoles dans l'islam, mais en général, le fait de reconnaître la souveraineté de Dieu est total. C'est-à-dire, c'est Dieu qui fait tout. l'idée que l'homme est libre est un blasphème pour la conscience religieuse musulmane. Lorsqu'ils discutent avec les Occidentaux, ils font semblant d'accepter les conditions du problème moral, de la responsabilité, de la liberté humaine. Mais en réalité, pour eux, c'est un blasphème. Et je veux dire, moi j'ai vécu dans un pays musulman, et j'ai baigné dans cette atmosphère, dans ma jeunesse. Je veux dire, quand un musulman fait le mal, il se plaint de ce que le Satan a fait avec son bras gauche. Et quand il fait le bien, il se félicite de ce que l'ange Gabriel a fait avec son bras droit. Et lui, le pauvre, il n'a jamais rien fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de notion de responsabilité morale pour celui qui rit au présent et qui reconnaît la souveraineté de Dieu. C'est le fils d'Abraham qui rit au présent, c'est Ishmaël. Ça fait des problèmes à la conscience musulmane. Parce que la conscience musulmane sait qu'elle est dans un monde où il y a la liberté de la créature. Mais sa foi, c'est qu'il faut lutter contre cette apparence, c'est un blasphème, pour être vraiment soumis à Dieu, tout il doit être soumis. C'est-à-dire le sens du mot islam en arabe. Muslim, celui qui croit dans l'islam, qui est adepte, pas qui croit, qui est adepte de l'islam, ça veut dire soumission absolue. D'ailleurs, c'est leur manière de prier, à plat ventre. C'est-à-dire, c'est une religiosité qui a sa propre grandeur, qui n'est pas du tout celle de la Bible. Ça veut dire, c'est une sensibilité religieuse qui reconnaît la souveraineté du Créateur de manière absolue, totale, il n'y a pas de place pour la liberté humaine. C'est clair? Donc, il n'y a pas de place pour la responsabilité morale. C'est la raison pour laquelle les Occidentaux ont tendance à croire que les musulmans n'ont aucun respect de la parole donnée. Et c'est vrai d'ailleurs. Pour un musulman, rompre une promesse qu'on a faite la veille, ce n'est pas une faute. La veille, c'était comme ça. Aujourd'hui, ça a changé. Ça ne veut pas dire qu'ils sont insincères. Leur conscience est différente. Ils vivent ce que Dieu leur fait vivre. Alors, hier, il leur a inspiré cela. Aujourd'hui, la respiration. Il n'y a pas que les musulmans comme ça, d'ailleurs. Mais enfin, chez eux, c'est la foi officielle. Et c'est surtout, je vous charitie, de retenir le principe essentiel. Pour eux, c'est blasphématoire de supposer que quoi que ce soit que l'homme fasse, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Mais chez vous, il y a beaucoup de juifs qui tombent dans cette superstition. Okay, en parlant de... Je ne sais pas, quand les juifs parlent français... mélange le sens des mots. Quand vous entendez les gens dire, c'est la destinée. Et ça, surtout chez les Nord-Africains, ça traduit le mektoub arabe et musulman. Bien attention à cela. Il donne au terme de destinée le sens païen de destin. C'est-à-dire des choses fixées à l'avance et qu'on est obligé de vivre sans responsabilité. Mais fais bien attention, lorsque le musulman dit Maktoub, ce n'est pas la fatalité des païens, les lois impersonnelles du monde qui font que ça fonctionne comme ça, l'astrologie. C'est la décision de Dieu qui est comme ça pour le musulman. Maktoub, c'est-à-dire c'est écrit de la main de Dieu. Ce n'est pas le fatum des latins, des romains. Méfiez-vous de ces imprécisions de sens. Quand un musulman dit « Maktoub », il sait ce qu'il veut dire. Il veut dire « c'est Dieu qui a décidé ». Ce n'est pas la fatalité aveugle, impersonnelle qu'on trouve dans le paganisme. Mais il y a des juifs...